L'homme est-il obsolète? C'est une question très sérieuse qui est posée par l'une des yeshivot, on va dire l'une des académies talmudiques, pour traduire en français, les plus sérieuses de France, la yeshiva des étudiants, qui pose cette question. Je la répète. Alors, obsolète, ça veut dire, si vous voulez, en langage courant, l'homme est-il dépassé? Parce que l'homme ne sert plus à rien. Et c'est Rav Sizek qui est en ligne avec nous. Bonjour, bonsoir à vous, Rav.
Oui, bonsoir.
Vous donnez une journée de conférence. En fait, bon, c'est vrai que le terme est beau, et d'ailleurs, vous allez essayer de nous expliquer si l'homme est dépassé, ce qui m'étonnerait beaucoup d'ailleurs. Mais en fait, vous organisez une journée d'études qui est le fruit de un an de travail avec vos étudiants sur ce qu'on appelle, deuxième terme complètement incroyable, le transhumanisme, c'est-à-dire cette volonté qu'ont les hommes de créer un homme, une race humaine augmentée, si j'ose dire. Donc tout ça, ça semble un peu compliqué, mais par contre, c'est sûr que c'est très attirant. On commence par le début. L'homme est dépassé?
Sûrement.
Ah oui?
Oui, c'est-à-dire qu'en vérité, c'est un enjeu qui n'est pas d'aujourd'hui. Hein. C'est tous les progrès techniques cherchent à améliorer l'homme. On pourrait dire que, par exemple, les lunettes, il y a 500 ans... améliore l'homme.
C'est
d'ailleurs
vrai.
Un ami m'a expliqué que s'il y a eu pendant la Renaissance un boom dans la connaissance et dans les technologies, ça venait en particulier de l'invention des lunettes. Les lunettes ont permis que les gens ont pu travailler, lire plus d'années qu'avant. Donc la connaissance s'est augmentée. Donc on prend un exemple qui n'est pas la science-fiction. Hein.
Mmh.
Plus récemment, on pourrait dire aussi que l'invention de la pilule dans les années 50 est une manière de changer radicalement la perception, la vision, la vie de l'homme.
Et alors aujourd'hui, il y a une entreprise qui s'appelle Google, qui contrairement à ce que tout le monde croit, n'est pas un moteur de recherche, mais une très grande entreprise. Qui a une activité beaucoup bien plus loin que d'aller chercher les mots qu'on n'a pas compris. Google, par exemple, est en train d'inventer toute une nouvelle humanité.
Absolument. Donc, si vous voulez, le point, c'est le suivant. On pourrait dire que le peuple juif et l'humanité se confrontent à des coups de butoir à chaque génération. Il y a des grandes problématiques. On pourrait dire, il y a 100 ans, ça a été le communisme laminer pendant des dizaines d'années une partie importante de l'humanité. Il me semble que nous rentrons dans une ère où il y a un autre totalitarisme, du tout scientifique, du tout technologique. Il va bien falloir que nous, petits êtres humains, on sache où on va, quoi. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Mmh. Et donc, nous, en tant que juifs, on a à réfléchir. Pas seulement à dire c'était mieux avant, parce que c'était pas mieux avant, il y avait d'autres problèmes avant, mais réfléchir aux problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui. Donc c'est pour ça que la Yeshiva des étudiants organise toute une journée sur, on pourrait dire, l'homme et la machine, parce que ces grandes entreprises, Google, Facebook, etc., investissent pour transformer l'homme et en faire donc un homme augmenté, comme vous avez dit. Et ils appellent ça même la singularité. Ils pensent que dans 20 ans, la machine va dépasser les capacités de l'homme. Et donc l'homme, quelque part, sera tout petit par rapport à la machine. Mais on peut comprendre ça. Hein. Ça a des incidences extrêmement concrètes dans notre existence. Par exemple, je prends un exemple. Au Japon, déjà, il y a des robots qui s'occupent des personnes âgées. Un robot est, il est programmé pour savoir qu'est-ce que la personne elle aime, est-ce qu'elle aime bien les croissants, à quelle heure des croissants frais, quelle confiture, quel médicament lui donner. Donc pas besoin d'être humain, c'est mieux en vérité qu'un être humain, c'est plus fidèle, c'est 24 heures sur 24, ça sourit. Lorsqu'une personne qui est par exemple a une maladie d'Alzheimer répète 50 fois, la machine va répondre 50 fois la même chose.
Sans s'énerver.
Sans s'énerver, c'est extraordinaire. Alors, est-ce qu'on accomplit le commandement de respecter ses parents en mettant une machine à la place? Vous comprenez, par exemple?
Moi, je connais mieux encore la poste. On revient à l'ancien temps, parce que si je dis la poste, c'est justement tout ce que vous décrivez, c'est que c'est un autre monde. L'époque où on s'envoyait des lettres, c'est fini. Donc la poste, pour 20 euros, va rendre visite à votre grand-mère. Vous n'avez pas besoin de le faire. C'est la poste qu'il fait à votre place.
Formidable.
Ah oui, c'est formidable. Sachant par ailleurs que Google est quasiment incontrôlable. Vous savez qu'il y a très peu d'entreprises qui oseront poursuivre en justice Google parce que Google vous sort de ses moteurs de recherche. Par exemple, moi, je parle de ce que je connais, c'est la radio. Si votre média est blacklisté par Google, vous êtes mort.
Voilà, donc c'est tous ces éléments. Par exemple aussi, j'ai vu, ne serait-ce qu'aujourd'hui, que sur les lecteurs Kindle et enregistrer les pages que vous sautez, les pages que vous lisez plus lentement, les pages que vous lisez plus vite. Donc, ça va programmer des écrivains qui vont faire des choses plus passionnantes, plus intéressantes, où vous sautez le moins de pages, vous voyez ?
Et je crois qu'aujourd'hui, on n'en est même plus à faire des recherches de comment vivre sur Mars, on en est à faire des recherches comment vivre à l'intérieur des écrans.
Voilà, donc si vous voulez, c'est toutes ces problématiques.
Mais ça ne vous fait pas peur, franchement, Rav ?
Comment ?
J'imagine que vous avez une foi, une
émouna
chevillée au corps, mais même avec une foi pas possible, ça ne fait pas peur, franchement, d'entendre tout ça ?
Sociétés
qu'on n'ose même pas poursuivre.
Il me semble qu'il y a des épreuves, que pas seulement individuellement nous traversons des épreuves, mais de manière sociétale, on vit des épreuves. Comme je vous ai dit, il y a 100 ans, dans toute l'Europe de l'Est, c'était le communisme. Le freudisme aussi était une manière de nous laver le cerveau. Maintenant, c'est une autre manière d'aborder les choses, mais en vérité, on vit là-dedans. La question est de savoir comment faire le tri. Comment tirer le bon, le positif, parce que la Torah nous enjoint de dominer le monde, de construire le monde, de remplir le monde et le dominer. Donc ça fait partie, en vérité, de notre vocation d'être humain, d'aller plus loin, de réfléchir aux choses, d'améliorer les choses. Mais il ne faut pas en être victime, donc il faut analyser les choses. Donc dans cette journée, nous avons invité aussi des spécialistes, des experts de dimension internationale, dont un monsieur Zach Halal, qui viendra de New York et qui est un spécialiste des technologies modernes, qui fait partie de l'université de la singularité, donc il travaille avec Raymond Kurzweil, qui est le fondateur de la notion de transhumanisme. Nous avons aussi invité le professeur Madame Eliane Gluckman, une des pionnières mondiales dans les cellules souches, pour nous dire où on est, pour faire vraiment l'état des lieux, et ensuite de réfléchir, nous en tant que juifs, comment on se positionne par rapport à ça.
Moi, il y a quelque chose qui m'affole. Les découvertes technologiques, par exemple, vous avez les lunettes Google, par exemple, qui vont vous permettre de vivre virtuellement, des moyens de locomotion complètement dingues, des drones qui sont capables de faire des choses folles, etc. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus terre-à-terre et qui m'interpelle beaucoup. Comment est-ce qu'avec 63 livres de Gemara, vous allez vous battre contre Internet ?
Alors, je vais vous dire, c'est un des points fondamentaux, c'est qu'il me semble que tout ça, en vérité, est relativement simple et basique. Parce que toute l'informatique est basée sur le 0-1, sur le binaire. Or, le Talmud n'a rien de binaire. Il n'y a que des dimensions antagoniques. Et je pense justement que l'humanité va retrouver le bien fondé de l'œuvre de Dieu. Dieu, quand il a créé les choses, il a créé les choses homme et femme. L'homme et la femme, qui est la base de la reproduction, de la vie sur Terre humaine, est d'une complexité incroyable. C'est-à-dire que nous, jamais on n'aurait eu l'idée que pour qu'il y ait de la vie, il faut des êtres antagoniques qui souvent ont du mal à se comprendre. Nous, on imagine que pour qu'il y ait une harmonie, il faut qu'on se comprenne. Or Dieu, il ne fait pas comme ça. Comment il a fait ? Il a créé un homme et une femme qui ont du mal à se comprendre. Et c'est comme ça que le vivant, il se passe. Nous, quand on étudie la Torah, on n'étudie pas seul. Parce que si on étudie seul, on est d'accord avec soi-même.
On tourne en rond.
On étudie avec un copain qui va nous contredire.
Et un jour,
quelqu'un... Le copain d'études du Talmud, il nous prouve qu'on n'a pas raison. Et nous, on lui prouve qu'il n'a pas raison. Et ça, en vérité, c'est plus fort que l'informatique. C'est plus fort que le numérique. Nous vivons, le vivant, il vient de la contradiction. D'ailleurs, c'est très, très intéressant et fondamental que les tenants des technologies les plus modernes sont aussi des militants de l'homosexualité. Et aussi des militants ils pensent aussi qu'amener des enfants au monde est obsolète et dépassé. Parce que si l'homme va vivre beaucoup plus longtemps, la reproduction ne sert plus tellement à grand chose. Donc ils sont aussi militants sur le fait de ça ne sert à rien d'avoir des enfants. Or, la Torah, qui est une Torah de vie, elle nous propulse à pas chercher le confort, ne pas chercher à ce que tout aille bien. Toutes ces technologies cherchent à ce que les choses aillent bien. Le concept de « ça va bien », ouais, je dirais, c'est un concept idolâtre. Nous, Dieu, il a voulu que l'humanité, elle se booste. Comment il a fait que l'humanité se booste ? Il a créé un peuple dans lequel il a choisi ce peuple, un peuple choisi, et tout d'un coup, c'est la panique. Il y a l'antisémitisme, on ne supporte pas ce peuple, etc. Ça fait des remous, il y a des persécutions, et alors on pourrait dire, mais c'est mal foutu. Non, ça apporte la contradiction. Nous sommes un peuple qui apportons une contradiction, et c'est comme ça que les choses, elles avancent.
Vous êtes
elles
magnifique,
n'avancent pas quoi. Par la facilité. Nous sommes à la radio. La radio, elle est toujours en train de crier sur l'antisémitisme. Mais heureusement qu'il y a du l'antisémitisme. L'antisémitisme, ça veut dire qu'il y a des frictions, il y a du mouvement, il y a du... Des fois, c'est accepté, des fois, c'est pas accepté. Ça bouge, c'est vivant. C'est un peu extrémiste ce que je dis, mais
non,
on
a bien compris.
Fondamentalement.
On a bien compris, c'est sûr qu'on est le sel de la terre, on connaît l'histoire. Rav Sissek, malheureusement, le temps nous arrête, et pourtant, Dieu sait que c'est passionnant. En attendant, on n'a pas encore parlé de l'ADN, il y aurait énormément de choses à dire. Est-ce qu'on avait imaginé toutes les manipulations génétiques ? Non. Voilà, en fait, c'est une journée d'études. Donc, je vous dis, c'est le fruit d'un an de travail avec vos étudiants.
Pour être précis, ça fait 2 ans et demi qu'on est sur le sujet.
Oui, carrément. C'est énorme. Dimanche 22 octobre, c'est toute la journée, c'est de 10h à 17h30. Et ce sera dans le 19e arrondissement à Paris, 11 rue Henri Murger. On connaît, en fait. Hein, c'est un endroit qui est très...
au Allée Jacob, dans les locaux de Allée Jacob, où se trouve la yeshiva des étudiants depuis 2 ans et demi. Si des personnes veulent s'inscrire ou nous poser des questions, il y a une adresse mail, yeshivaforever@gmail.com.
D'accord.
yeshivaforever@gmail.com. Ouais. Où les personnes peuvent nous poser des questions sur ce qui va être abordé dans la question. Abordé dans la journée, et on abordera les questions posées.
Super. yeshivaforever@gmail.com, et sinon, Rav Sissek est suffisamment connu, et la yeshiva des étudiants aussi, c'est dans le 19e, je rappelle juste le jour, dimanche 22 octobre. Rav, merci pour
merci
ces très brillantes réflexions sur Radio Shalom. Bonsoir à vous.
Au revoir.